Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant série avec les 100. Bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Bonjour Lydia, Mathis et Yanis.
Bonjour.
Et on accueille une petite nouvelle aujourd'hui. Bah oui, on n'était pas assez nombreux, hein, donc on se donne les moyens. On accueille Léonie. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Léonie, elle est en seconde et elle va passer une semaine avec nous. C'est son stage seconde.
Du coup, bonjour. Oui, je vais faire mon stage de seconde pendant toute cette semaine pour découvrir un peu le journalisme dans le cinéma.
C'est ça. Elle est très intéressée par le journalisme au cinéma, donc on va l'emmener un peu partout à une projection presse, une avant-première, une rencontre presse avec des réalisateurs, des acteurs. On va essayer de lui donner envie et on va commencer par présenter une série avec Léo. Léo, on va travailler à deux aujourd'hui.
Tout à fait.
Ça va être trop bien. Une série alors qui a vu le jour en 2014. Mais nous, Français, on a pu voir en 2015, c'est The 100, les 100. Et on va laisser Mathis nous lire le synopsis.
Les 100. Après une apocalypse nucléaire, les 318 survivants se réfugient dans des stations spatiales et parviennent à y vivre et à se reproduire, atteignant le nombre de 4000. 97 ans plus tard, une centaine de jeunes délinquants redescend sur Terre.
Moi, j'aime bien, c'est court et ça met vraiment, ça donne le ton de la série. Quand tu lis un synopsis comme ça, tu vois la bande-annonce qu'ils avaient fait à l'époque, ça donnait très envie de voir la saison 1. Je sais pas pour toi si c'était pareil, Léo.
Moi, j'ai vu ça beaucoup, beaucoup plus tard, je l'avoue. À force que des gens m'aient dit, il faut que tu regardes cette série, il faut que tu la regardes, j'ai fini par la regarder et j'ai été absorbé. Mais c'est vrai que à l'époque où sortait la première saison, je n'ai pas pu suivre.
Ouais, t'as pas pu suivre.
J'étais tout simplement pas là-dessus à l'époque.
Ouais, t'étais pas dans ce style-là. Alors, c'est vrai que The 100, c'est une série de science-fiction qui est arrivée avec des jeunes. Parce qu'il y a vraiment un casting. Alors, oui, il y a des personnes qu'on connaît, qui ont été là depuis quelques années et qui sont le nerf de la guerre chez les adultes. Mais c'est quand même. Des jeunes délinquants qui sont envoyés sur Terre. Ils sont sélectionnés, donc les 100, comme vous avez bien pu entendre. Ils sont sélectionnés pour partir sur Terre pour vérifier si la Terre est viable ou non. Donc, ils sont envoyés en test. Ce sont des pertes autorisées, comme on peut dire. Ce sont pour la civilisation qui est en haut et qui a des petits soucis avec l'oxygène, qui... La vie va se faire que ça va être un peu plus compliqué. Il leur faut une solution de repli. Et la solution de repli, c'est de retourner sur Terre. Oui, mais est-ce que la Terre est viable ou non? C'est ce qu'on va découvrir tout au long et surtout dans les deux premiers épisodes où là, on a vraiment cette absence où ils sont dans cette capsule et ils vivent des choses assez hallucinantes. Alors, il y a des personnes qui n'étaient pas normalement prévues de monter à l'intérieur, comme un certain Bob Morley, Bellamy Blake. Bellamy Blake. Et qui monte dans la capsule, pourquoi? Parce qu'il y a sa sœur Octavia Blake, qui est jouée par Marie Avgeropoulos. Donc il y a ces deux personnes, et puis il y a une principale, c'est Clark Griffin, qui est jouée par Eliza Taylor. En fait, Clark Griffin, c'est... Ouais, la fille d'un des principaux qui s'occupait de cette cité spatiale, on peut l'appeler comme ça, avec sa femme Abigail Griffin, qui est jouée par Paige Turco, qu'on connaît très bien. Enfin, nous, en tout cas, dans les séries et dans les films, on la connaît. Donc, c'était des visages assez... on va dire qu'on avait une certaine confiance, donc les voir dans les séries, ça ne nous gênait pas trop. Et c'est comme Isa Washington qui joue le chancelier Jaha, qui est aussi assez connu, ou Henry Ian Cusick qui joue Marcus Ken. Ce sont les grands têtes pensantes de cette cité spatiale et qui décident un peu comment ça va se passer et quels sorts vont être réservés à ces jeunes. Et c'est vrai que voilà, son père a décidé de dire la vérité, dire qu'il y avait un problème d'oxygène, que ben il risquait de mourir et de plus avoir l'oxygène possible et aussi tout ce qu'il faut pour faire vivre ces 4000 personnes qui sont encore
dans l'espace.
Et là, on envoie ces jeunes. Alors, le papa a été envoyé à la dérive, on appelle ça à la dérive, projeté dans l'espace. Et la maman qui dirige un peu cette cité dit sa fille a été attrapée parce qu'elle a voulu dire comme son père, elle a été envoyée en prison et comme c'est une jeune qui va faire partie des 100. Donc va y avoir ce rapport mère-fille un peu conflictuel au début.
Ça va être tumultueux, mais ça va être très important pour comment les choses vont se passer finalement.
C'est ça, tout à fait. Et d'autres qui vont... être assez important aussi, il va y avoir Richard Harmon qui joue John Murphy,
le fameux
Devon Bostick qui joue Jasper Jordan. Jasper, on l'aime beaucoup, le geek assez timide au début et qui va se révéler tout au long des saisons. C'est vrai que ces personnages, on va les voir grandir au fur et à mesure des saisons et ça va être très intéressant. Leur évolution, alors il y en a, ils vont partir dans le côté sombre, d'autres qui vont s'éclairer, et puis d'autres qui vont se retrouver au milieu et qui vont faire des choix qui vont les mener soit d'un côté, soit de l'autre. Et c'est vrai qu'ils vont arriver dans une terre respirable, heureusement pour eux, parce que sinon on aurait perdu les 100, enfin 99, pour être précis. Eh, vous en perdez un, vous saurez qui quand vous arriverez. Et donc, ils arrivent sur Terre et là, il faut tout réorganiser. Et bien sûr, il faut des chefs. Et des fois, on prend pas les bons chefs. On n'arrive pas à faire les bons trucs. Et puis, il faut déléguer. Il faut dire, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et Clark Griffin, elle n'est pas vue d'un bon œil parce que c'était la fille aisée qui avait qui avait sa famille tout ça, donc ils me disent toi tu vas pas faire ta chef, tu vas rester à ta place, et Bellamy Blake et John Murphy prennent un peu les rênes, on va pas mentir.
C'est ça, c'est eux qui prennent le pouvoir et on peut dire déjà que ça va pas très très bien se passer, puisque la répartition du pouvoir, la démocratie, tout ce genre de choses, ça ne vient pas très naturellement, et en plus ce sont donc 100 jeunes délinquants qui ont tous été envoyés là parce qu'ils avaient commis un crime ou une infraction, quelque chose qui n'est pas toléré sur l'arche.
Il y en a, c'est vraiment minime.
Ça peut être minime, mais comme c'est une question de survie, l'ordre martial, on va dire, on peut appeler ça comme ça, l'ordre martial est appliqué sur l'arche et la moindre faute peut vous amener à votre mort.
Oui, parce qu'ils se croivent seuls sur Terre.
Seul
survivant, dans le monde, parce qu'ils se disent, il n'y a personne qui a survécu aux bombes, à tout ce qui s'est passé sur Terre, et ils se retrouvent avec les autres. Et quels autres ? Il y a des sacrés noms, on va citer l'un des principaux qui arrive au début et qui rencontre une certaine Octavia Blake,
ouais.
C'est Lincoln, joué par Ricky Whittle. Donc c'est vrai que là on voit le côté des autres. Alors les autres, leur but c'est de faire disparaître les nouveaux, de leur faire comprendre que ils sont pas les bienvenus et que ils doivent repartir s'ils veulent vivre, s'ils veulent survivre.
En vrai c'est plus ça, c'est plus un avertissement qui ensuite va mal se terminer, vous le verrez en regardant les premières saisons, puisque le scénario tourne autour de ça. Et Lincoln est le premier représentant, le premier qu'on va vraiment côtoyer et commencer à connaître, des peuples indigènes qui sont restés donc sur la Terre suite à la catastrophe nucléaire. Avec une représentation, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que la façon de représenter du coup les humains sur Terre sont un peu dans les modes de représentation qu'on va utiliser avec... les colons qui arrivent aux États-Unis
c'est tout à fait
en 1500 avec des genres d'Indiens que t'as l'impression ils sont barbares, tu ne comprends pas trop leurs mœurs, ils ont l'air d'être très violents.
Leur langue.
Leur langue non plus, ils ont une langue un peu différente, etc. Tu ne comprends pas. Et ceux qui arrivent de l'espace, tout bien habillés, les colons qui arrivent bien tranquillement. Sauf que, bien évidemment, bah, les sauvages ne sont pas réellement des sauvages. Ils ont, comme tout humain, ils ont une civilisation et une culture. Et au fur et à mesure des premières saisons, les sangs qui sont descendus sur Terre et qui sont par la suite rejoints par d'autres vont finir par s'habituer, par créer des connexions avec cette culture et on va découvrir de nouveaux personnages très importants. Mm-hmm. Donc, je pense que tu peux nous en dire peut-être quelques mots.
Ben, on a Tassia Teles qui joue Echo, elle arrive vite, mais on la revoit un peu plus dans une autre partie. Alors c'est vrai que c'est elle qui est la commandante des autres, mais c'est celle qu'on voit sur le terrain, mais il y a quelqu'un d'autre au-dessus. Et au-dessus, vous avez le grand commandeur qui est joué par Alicia Demnan Carré, qui est Lexa. Et c'est elle qui dirige un peu tout, qui drive. Et chez les autres, le sang appelle le sang. C'est-à-dire que si jamais tu tues l'une des personnes, bah, tu dois verser ton sang pour tuer, puni, et tu dois mourir, mais on te torture avec d'une certaine manière, et tu dois verser tout ton sang, et c'est les personnes qui ont été victimes de ta cruauté qui doivent le recevoir. C'est un peu spécial, c'est un peu des coutumes assez spéciales, mais le sang appelle le sang, donc du coup, ils sont très, voilà, s'il y en a un qui est blessé, s'il y a quelque chose qui se passe, tout de suite, ils vont riposter.
Oui, ils sont inspirés, en vrai, de traditions historiques, il me semble pas mal, notamment nordiques, où si tu fais une offense, quelque chose, tu dois réparer la personne qui a été offensée de la même valeur.
C'est clair.
Il me semble, en Scandinavie, il y avait quelques lois qui étaient un petit peu comme ça. Et donc, ils sont inspirés de ça pour en faire la grande loi de ces tribus, parce qu'il y a plusieurs tribus sur Terre qui survivent. C'est un même peuple, mais avec un ensemble de tribus qui ne sont pas unifiées. Et bon, ça va être sujet à divers scénarios au cours des multiples saisons, entre les guerres intestines, les guerres contre d'autres.
C'est
puisque,
ça.
En plus de ce qu'on va, on va dire, les indigènes qui vivent sur place, il y a... un ensemble d'humains qui ont été épargnés par les radiations.
Dans les bunkers,
Il y a le fameux bunker avec ces scientifiques, le mont Weather, qui intervient, il me semble, saison 2 ou 3
3.
3 et qui va... Bah...
Non, t'as peut-être raison, c'est la... Attends, la 1, oui, ça finit avec le bagarre machin, tout ça, donc ils sont dans le truc... non, ouais, c'est peut-être la saison 2, t'as peut-être raison.
Et pour moi, c'est là où les choses prennent véritablement leur ampleur. Parce qu'avant ça, c'est uniquement une sorte de découverte. Tu découvres un nouveau monde qui te fait peur. La rivière te fait peur. Les gens qui vivent là-bas te font peur, etc. Et c'est le moment où ils rentrent en contact avec ces montagnards, ces gens qui vivent sur le mont Weather, que les sangs vont prendre conscience réellement de quels sont les enjeux de ce monde et de la survie.
Mais t'as Adina Porter, qui est le bras droit de Lexa, Indra, qui est très importante. Encore plus importante parce que c'est la chef de Lincoln et elle ne voit pas d'un très bon œil une certaine Olivia Blake.
Pendant un temps.
Et pendant un temps, jusqu'à ce qu'elle la prenne, Octavia Blake, pardon, et qu'elle la prenne sous son aile. Et puis, il se passe quelque chose sur Terre. Tous les sangs sont équipés d'un bracelet de vie où on peut voir leurs signes vitaux, comment ils vont, tout ça. Et bien sûr, Bellamy et John décident que ces bracelets donnent trop d'indications pour là-haut et ils décident de s'en séparer. Ce qui va mettre en émoi une certaine Abigail Griffin qui va vouloir savoir qu'est-ce qui se passe sur Terre et qui va essayer d'organiser une mission sauvetage, entre parenthèses, ou essayer de prendre contact avec eux. Et elle va avoir besoin d'une certaine personne qui est Raven Reyes, jouée par Lindsay Morgan.
Oui,
et c'est vrai que ce personnage-là est hyper important parce qu'elle connaît tout ce qui est tout ce qui est robotique, tout ce qui est électrique. Enfin voilà, elle sait monter des choses, elle sait réparer une navette, elle sait réparer une radio. Enfin, c'est quelqu'un qui va énormément apporter dans avec les 100. Et au début, bon, elle va pas être vue d'un bon œil parce qu'elle vient justement de là-haut. Et puis petit à petit, ils vont lui faire confiance et ils vont lui donner des missions de plus en plus dures. Elle va vivre des épopées hyper compliquées. L'évolution de son personnage est incroyable aussi parce que il y a des choses qui vont se passer et elle va énormément douter d'elle. Et puis petit à petit, elle va tomber dans quelque chose de sombre et elle va voir la lumière au bout du tunnel. Je vais dire que ça parce que j'ai pas du tout envie d'en dire plus, mais je trouve que elle va se révéler en tant que chef et en tant que amie des autres, voire plus. Bah après, il y a plein de personnages qui se mettent en place. C'est vrai qu'on a plusieurs axes. On a ce bunker, on a d'autres éléments qui vont être abordés. On a cette espèce de pouvoir qui vont essayer d'être pris soit par les autres, soit par ceux qui viennent du ciel. Je crois que c'est ça comme ça qu'on les appelle, hein, ceux qui viennent du ciel.
Oui, le peuple du ciel.
Le peuple du ciel, voilà, c'est ça. Et les garçons, vous avez quelque chose à nous dire sur les 100 ?
Alors moi, je voudrais revenir un peu aussi sur ce que Léo disait au début. Moi aussi, je l'ai vu plutôt tard, la série. Et à l'époque, j'avais l'impression que c'était quand même une série un peu tête d'affiche pour Netflix. Et je trouve que les 3-4 premières saisons, elles sont vraiment géniales. On apprend à connaître l'environnement, on redécouvre la Terre, vu qu'elle était censée être inhabitable. Et après, on voit le développement de certains personnages, comme notamment Murphy, en fait, qui change complètement. Au début, il est plutôt...
tête à claque.
Ouais, voilà, c'est ça. Et après, en fait, on voit qu'il y a du travail sur soi-même. Et en fait, on commence petit à petit à aimer le personnage. Et je trouve que
quel moment tu l'as aimé, le personnage ?
Je dirais...
Il est quand même gratiné, hein, Murphy.
Ouais, ouais.
Moi, je lui en veux beaucoup, à Murphy.
Moi, j'aurais dit dans le désert.
Moi, je l'ai jamais aimé. Moi.
Quand ils sont en errance avec...
avec la fille.
Ouais.
Avec la fille et surtout le dirigeant de l'Arche.
Ah ouais.
Ja.
Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment là où il commence à ouvrir les yeux et à changer mentalement quand ils sont retenus prisonniers quelque part. Et après, donc oui, les 3-4 premières saisons, on a vraiment de l'action, on change constamment d'endroit et on garde quand même une cohérence, je trouve, avec le début de l'histoire où on découvre toujours de nouvelles choses. Alors qu'après, je trouve sur les dernières saisons, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Mais globalement, je trouve surtout que les personnages sont très attachants. Et même pour Bellamy, qui au départ a un peu la même idée que Murphy, et pareil, c'est un personnage qui devient incroyable au fil du temps.
Alors on lui en veut un peu moins à Bellamy, puisqu'il protège sa sœur Octavia. Et voilà.
Mais c'est vrai qu'au début, il n'a pas le bon rôle.
Il est un peu plus louable que Murphy sur certains points. Mais c'est vrai que oui, il est aussi tête à claque à des moments, surtout par rapport à des événements qui vont se passer et que c'est lui qui va les produire. Donc c'est vrai que sur ce point-là, surtout dans une saison où il se met à massacrer les autres, et là c'est incompréhensible et ça va très très loin. Après, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette série ? Est-ce qu'il y a une scène, vous vous souvenez, une saison, un moment de la série qui vous a le plus marqué ?
Moi, c'est l'évolution du personnage d'Octavia. Qui passe vraiment de rien à tout au fur et à mesure de la série. Même mon appréciation du personnage, au début, j'avais un peu de mal. À la fin, je pense que c'est ma préférée. Il y a une évolution du personnage qui est dingue dans sa mentalité. Puis même, on parlait de culture, etc., avec les colons, etc. Et elle, c'est celle qui représente vraiment le mélange de cultures, au final.
Ouais,
l'acceptation de l'autre, etc. Et je trouve que même philosophiquement, c'est le meilleur personnage. Pour moi.
Moi, je dirais, c'est dans la saison où ils sont dans le bunker. Et lorsqu'on apprend comment les gens dans ce bunker arrivent encore à vivre. Il y a certaines scènes qui sont vraiment très très explicites où, et ça m'a vraiment, parce que j'étais quand même plus jeune quand j'ai regardé, et ce moment-là il m'a vraiment marqué parce que c'est quand même très explicite les scènes qu'on voit, et ça je m'en...
T'en as fait des cauchemars?
Ouais, un peu quand même, parce que c'est choquant quand on n'a pas trop l'habitude de voir des trucs comme ça plus jeune, ça fait un choc de voir ça.
C'était assez horrible, c'est vrai que c'est, en tout cas c'était engageant émotionnellement, ouais. J'avais très envie de les voir mourir. pour qu'ils arrêtent de faire
ceux
des choses horribles.
Ceux qui sont
horribles.
Dans le bunker, ouais. Le Mont Weser.
Ah, oui, ouais, c'est ça qu'on parle. Parce qu'en
oui.
soi,
oui, oui,
au
parce
début,
qu'il y a
je
un deuxième bunker.
Deuxième bunker.
Mais moi, je pensais que c'était le deuxième où ils se trucidaient. Mais non, en fait, c'est le premier.
Ouais.
Okay. Oui, oui, non, mais le premier, c'est horrible. Ils prennent les autres pour... voilà. Et puis, encore plus, le peuple du ciel, où ils s'aperçoivent qu'ils ont une dimension et qu'ils peuvent leur permettre, enfin, d'aller à, leur à l'air libre sans mourir. Donc ça, c'est... oui. Parce que l'autre, ça leur laisse une petite... un petit moment, mais pas plus, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, non, c'est des... c'est des sauvages. C'est horrible. C'est vrai qu'on...
Dire que c'est des sauvages, c'est, je pense que c'est le mauvais mot. Mais... Parce que justement,
c'est eux qui
transportent la civilisation face aux sauvages qui sont censés être dehors.
Et moi, je dis que c'est des sauvages pour pas dire un autre mot. encore plus... encore plus fort... Mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé cette période-là de bunker parce qu'on voyait vraiment cette manipulation énorme. Alors ça coulait de source hein, quand tu vois le président du bunker, quand tu vois comment il est, tu dis coucou, tu nous prends
louche,
pour des cons, tu vas nous en pop-outer et on va tous se faire avoir. Et en fait, au début, ils sont tous tout mignons, tout gentils, tout va bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, il y a une certaine Maya qui rentre en ligne de compte et qui explique ce qui se passe à Jasper, parce qu'elle est tombée amoureuse de Jasper. Donc ça va quand même aider, parce qu'à ce moment-là, il y a des choses qui sont dites et qui ne l'étaient pas. Et puis Clark, qui est curieuse, qui fouine partout et qui va découvrir le poteau rose au péril de sa vie. Hein. Bon, enfin, je pense que tout au long de la série, elle prend des risques énormes, inconsidérés, et à chaque fois, elle met sa vie en péril. Mais c'est son rôle. C'est la personne qui doit découvrir et aussi faire des choses que les autres ne peuvent pas faire pour sauver son peuple. C'est vrai que d'ailleurs il y a beaucoup de d'aspects complètement qui enfin elles se ressemblent beaucoup Lexa et Clark là-dessus. C'est par rapport au peuple et tu vois à un moment donné Lexa qui met son peuple en avant par rapport à sa relation avec Clark. Et inversement, tu vois ce qui se passe pour Clark qui met en avant son peuple pour sauver les personnes et tue des centaines et des centaines d'autres personnes qui étaient dans le bunker, femmes, enfants compris. Donc c'est vrai que
il y a beaucoup de dilemmes moraux comme
ouais,
ça.
Ouais, il y a énormément, mais même dans les saisons après.
Bien sûr, toute la série.
Toute la série joue là-dessus. Joue sur cet axe de dire qui a le droit de vivre ou de mourir et qui peut donner ce droit. Parce qu'à un moment, quand on parle aussi de cette ville des Lumières, c'est explosant, quoi. Ils absorbent cette pilule tout seul et ça leur fait devenir un peu des robots d'Alia. Et enfin. Moi, j'ai vraiment halluciné sur cette partie-là. Après, je trouve que c'est très bien fait, la Ville des Lumières. Ils ont vraiment créé un monde complètement différent, un axe complètement différent. On retrouve un personnage qu'on avait perdu, et moi, j'étais super heureuse. Mais c'est vrai que voilà, tu as des choses, tu te dis, bon, c'est tellement fait que à des moments, on peut se perdre. Parce que dans les saisons, au fur et à mesure des saisons, on se dit « Ah oui, mais c'est intéressant, mais où ils veulent en venir ? Où ils vont aller ?» Parce qu'à un moment, il y a quand même, dans une saison, un clin d'œil à la série Stargate SG-1, avec les Goa'uld, qui utilisaient certains trucs, et là, ils utilisent pour prendre l'apparence ou le corps d'une certaine personne, avec les fameuses puces.
Ah oui, oui.
Oui, c'est loin.
Ouais, là, tu parles de la fin de la série.
Ouais, je parle de loin. Mais voilà, il se passe ces choses-là. Il y a plein de clins d'œil comme ça qui sont distillés au fur et à mesure à d'autres séries qui ont fait la science-fiction et qui ont donné ce timbre. Et c'est vraiment vivifiant. Il y a aussi un côté un peu sorcellerie à la Charmed. À un moment donné, sur le bateau, il y a tous ces côtés-là qui sont hyper intéressants, ces légendes, par rapport justement à ce sigle d'infini,
oui.
qui est aussi très très important, avec les commandeurs, la lignée des commandantes qui ont suivi au final, au fur et à mesure. Moi, je trouve ça hyper intéressant à savoir que dans une petite capsule comme ça, il y a tout le passé de tous les commandants de la première jusqu'à la dernière. C'est vrai que c'est fort. Le côté technologique qui est mis en avant, même s'ils ne sont pas hyper évolués, entre parenthèses, les autres à ce moment-là, ils sont quand même issus du peuple du ciel, oui. sans le savoir.
Et indirectement, ils worship, leurs croyances sont basées au final sur l'ancienne science qui est celle, effectivement, des peuples du ciel. Donc il y a toujours ces boucles-là ou ces illusions où soit la série nous donne l'impression que les gens sont complètement différents et en fait, c'est les mêmes, sauf qu'ils sont simplement dans des camps différents. Ils croient être opposés en termes de croyances, mais au final, ils viennent tous de la même origine. Simplement, chaque culture a évolué pendant des centaines d'années de son côté. Il y a beaucoup de... Tout comme avec les choix moraux, ça enchaîne comme ça des problématiques, des réflexions sur l'humanité, aussi l'avenir avec tout le côté post-apocalyptique. Quelles erreurs sont faites, quelles erreurs ne sont pas à reproduire. Et que justement aussi les erreurs se reproduisent. Et certaines choses sont inévitables. Et c'est pour ça qu'ils retournent dans l'espace quelquefois.
Mmh. Et puis il y a des choses oui, où tu te dis, non, ils auraient pu éviter, par exemple, quand il y a des personnes qui meurent, tu te dis, mais ça aurait pu s'éviter, mais facilement. Et en fait, c'est par la bêtise humaine, on en revient toujours même, hein, mais par la bêtise humaine qu'ils arrivent à des résultats catastrophiques. Et petit à petit, ça évolue au fil de la série et tu vois jusqu'où c'est arrivé à cette saison, jusqu'à la fin de la septième saison et les tenants et les aboutissants de cette série. Alors c'est vrai que, comme je disais, on était très très emmenés par la première, la deuxième, la troisième. On a perdu à la fin de la troisième un personnage principal, donc ça a un peu perdu certaines personnes et on se demandait s'il pouvait y avoir un retour. Donc beaucoup ont regardé la quatrième, la cinquième, et là la cinquième, beaucoup beaucoup de gens se sont perdus. Je sais pas où vous êtes arrêtés.
C'est laquelle la cinquième exactement?
Bah c'est quand il sort du bunker.
Moi si je l'ai regardé
avec les prisonniers.
Pour répondre aussi à la question que tu demandais tout à l'heure, Yanis et Mathis, moi j'arriverais pas à choisir un moment que je préfère dans cette série parce que j'ai quand même été aspiré tout du long.
Mm-hmm.
Il n'y a que à la toute dernière saison où j'ai commencé à un peu faiblir parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des schémas qui se répètent ou alors c'est un schéma qui est inversé pour nous montrer que... Enfin, pour nous faire réfléchir sur ces questions-là. Mais c'est vrai qu'on finit par rentrer dans du recyclage, on va dire ça comme ça.
Voilà, après, ce qui nous intéresse, c'est comme on s'est attaché aux personnages, on veut savoir ce qu'ils deviennent. Le but... c'est de savoir ce qu'ils deviennent, même si des fois l'épisode n'apporte pas ce côté-là où on ne voit pas le personnage. Et là, tu es quand même, ils abusent, j'ai pas vu mon personnage. tu te poses pas mal de questions. Après, en soi, la fin était intéressante, mais j'aurais voulu un truc plus happy end que ce qu'on a eu, même s'il y avait beaucoup d'happy end. J'aurais voulu un autre truc, mais bon, moi, c'est mon côté romantique qui ressort sur ce point-là. J'aurais bien aimé voilà, que certaines personnes soient retrouvées et que la civilisation justement qu'on voit dans la 7e saison apporte ce côté-là. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas tout avoir, c'est ça. Mais c'est vrai que non, c'est assez, assez prenant. Le côté de l'espace, je sais pas comment vous l'avez trouvé.
Le côté de l'espace, ça change énormément. Moi, à partir de la saison 5, j'ai à peu près lâché, parce que ça devenait trop redondant à mon goût. J'avais beau aimer les personnages, j'en avais un peu marre de tout le temps le même schéma qui se répète. Mais il y a beaucoup plus de scènes dans l'espace, par contre, dans les dernières saisons. Et ça change, moi, personnellement, je suis pas très friand de ça. Je préfère quand ça se passe sur Terre, mais c'est totalement subjectif, et j'ai aucune idée du pourquoi, du comment. Mais oui, ça change. Puis le fait qu'il y ait deux groupes séparés, à un moment... sur Terre et un dans l'espace, ça donne une vision très différente de toute l'histoire.
Moi, j'ai bien aimé la saison 5 où ils retournent dans l'espace parce que on apprend beaucoup de choses, on a beaucoup de révélations et aussi parce que la civilisation dans l'espace, on en avait dans les premières saisons, on voit quelques bribes, on voit certains moments, mais je trouve que dans la saison 5, on s'attarde beaucoup plus sur l'histoire de cette civilisation. Et sur, je trouve que les événements qui vont se passer dans cette saison, je trouve que ça a redonné un petit coup de boost à la série. Et moi, j'ai trouvé cette saison très bien. Ça nous a fait changer un peu parce qu'on avait passé beaucoup de temps sur Terre. Ça nous fait revenir aux origines de la série de base. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et on a eu vraiment de belles choses dans cette saison, pour mon avis.
T'aimais bien quand ils étaient justement avec cette saison 5 où ils sont repartis dans l'espace, donc.
Ouais, parce que
ils ont essayé de réparer.
Oui, c'est ça. C'est on aurait pu penser que ça aurait pu se régler tout le long de la saison. On espère. Et après, avec la fin qu'on a. Je trouve la fin en fait montre vraiment la réalité de la chose et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené et surtout avec les différents événements comment ça se termine, je trouvais que c'était plutôt bien fait et c'était parce que c'est déchirant, voilà, c'est émotionnel et moi ça m'a beaucoup plu.
Ouais, c'est vrai.
Que ça ramène un peu de SF dans les dernières saisons avec l'exploration spatiale et justement bon là je vais parler la dernière saison où ils arrivent sur une autre planète.
Ah bah, complètement différente, là.
J'ai bien aimé surtout le teasing qu'ils mettent au fur et à mesure avec les vidéos souvenirs des gens qui étaient sur la... Enfin, des colons de cette planète. J'ai trouvé ça très sympa. C'est quelque chose que j'aime bien dans les séries SF, ce côté exploration à tout un nouveau monde à découvrir avec des nouvelles espèces, toute la... Bah, au final, un peu ce qu'on a dans la saison 1 de The Endred, parce qu'ils arrivent sur Terre et c'est comme si c'était une nouvelle planète pour eux. Donc, c'est comme s'ils arrivaient sur Mars ou peu importe. Donc, il y a cet aspect-là. Sauf que là, c'est encore autre chose que nous, même nous, on ne connaît pas parce que ce n'est pas la planète Terre. C'est quelque chose d'autre, d'imaginaire qui a été créé.
Bah, la 6 et la 7.
C'est, ah, ça commence dès
différents.
La 6.
Dès la 6, on est dans un monde différent où on se retrouve justement avec ces personnages que je disais qui prennent possession.
Ouais.
Et il y a un culte qui est voué à ces personnes-là. Et c'est assez troublant, d'ailleurs, cette saison-là où elle doit se battre et essayer de reprendre le pas sur la personne qui a pris possession d'elle.
Qui a pris possession
Clark,
d'elle,
je me souviens, moi, de ce passage-là. Elle est tellement forte qu'elle se laisse pas... Et contrairement à d'autres qui se sont laissés manger par les personnes qui ont pris...
Mais voilà, même si c'est dans les dernières saisons, je trouve cet arc-là assez intéressant de, justement, la Terre, c'est tant pis, c'est fini. Ils ont essayé pendant un certain nombre de saisons, un certain temps, de faire revivre cet endroit-là. Et au final,
disons qu'à un moment, ils n'ont pas eu le choix. Hein, ils ont dû partir. À un moment donné, on ne leur a pas donné le droit de voir au-delà. Et puis, voilà, c'est des choses qui se sont passées et... Il y a dû y avoir des sacrifices et les sacrifices ont pensé, oui, qu'il y avait un personnage qu'on ne retrouverait pas et en fait, on l'a retrouvé. Et c'est vrai que petit à petit, on a des arcs qui ont été faits complètement différents sur des planètes. Et c'est pour ça que ça me fait penser à SG1, parce qu'il y a plein de trucs qui sont un peu clin d'œil à ce côté science-fiction. Si on reprend SG1, Stargate Atlantis, où ils vivaient dans des mondes différent avec une porte. Là, dans la 7e saison, on a vraiment cet aspect-là où on nous explique avec nous encore une autre civilisation par rapport à la 6 qui est liée à la 6. Donc, non, je trouve ça intéressant.
Une chouette partie plus SF que post-apo. Le début est plus post-apocalyptique et la fin est plus SF.
Ouais, je suis d'accord. Avant, vous aviez la possibilité de voir l'intégralité de la série sur Netflix. Malheureusement, depuis fin mars, ce n'est plus possible. Vous pouvez la retrouver sur Apple TV, mais là, ça va être payant. Sur Prime Video, pareil. Je pense que elle reviendra normalement voilà, dans les abonnements, dans plein de choses. Je sais que sur France TV, ils avaient fait quelque chose sur France 4 où ils l'avaient passé en intégralité. Donc, c'est une série qui a beaucoup plu, qui a beaucoup ouvert de portes par rapport à d'autres séries qui ont vu le jour maintenant. Et je te vois opiner de la tête. Je crois que tu es d'accord avec nous, Yanis.
Bah ouais, parce que comme je disais, je pense que c'est l'une des premières séries faites par Netflix qui a fait autant de bruit. C'est vraiment une... En fait, elle a vraiment lancé la mode, entre guillemets, des séries Netflix qui... on peut toujours trouver ce qu'on aime, et puis surtout des grosses séries qui font des chiffres et qui sont connues vraiment à l'international. C'est une des premières dont j'ai entendu parler. Et quand j'ai eu Netflix, c'est l'une des premières aussi que j'ai voulu regarder.
Je ne suis pas sûr que ce soit produit par Netflix. Hein. C'est diffusé sur
Netflix.
Non,
moi je l'ai vu sur Syfy. La toute première fois où je l'ai vu, c'était sur Syfy. C'est Syfy qui l'avait. Après, ça a été repris par Netflix. Mais bon, Syfy...
Juste pour préciser que c'est pas une production Netflix, ouais, comme on entend de nos jours.
Ouais, moi, je pensais, voilà. Tu vois, moi, je pensais que c'était...
Non, c'est vraiment Syfy, okay, qui l'a fait. C'était une chaîne dont on parle plus trop, mais qui était très, très valorisée, qui était très importante. D'ailleurs, ce qui était fou, c'est qu'il y avait, par rapport aux conventions qui existaient, pop culture, on passait en avant-première des séries de Syfy. Aussi en France, il y en avait au TGS, au Paris Manga. Je m'en souviens très bien, on pouvait voir un épisode en intégralité en avant-première qui était diffusé. Syfy était très ouverte à ça. Ça a été repris. Après, vous avez OCS, vous avez HBO, vous avez tous ces trucs-là qui ont vu le jour. Mais c'est vrai que Syfy, non, était très, très importante à l'époque. Et ouais, donc il y a 7 saisons, ça va vous prendre un peu de temps quand même pour rattraper les 7 saisons, je vais pas mentir. Les épisodes font, si je me plante pas, 52 minutes.
Une petite heure, ouais. Et la série est très engageante émotionnellement, soyez prêts, je sais que moi je l'ai dévoré quand j'ai commencé une fois. Le début c'est toujours pareil, il faut quelques épisodes pour se mettre dans le bain, mais une fois que tu t'es accroché aux personnages principaux... Derrière, ça enchaîne les épisodes.
Ouais, parce que t'as envie de savoir ce qui se passe et comment ça se fait. Mais c'est vrai que, on va pas mentir, les 4 premières saisons sont vraiment très prenantes. On est vraiment dedans, on est à fond. La 5e ouvre l'axe sur l'espace. Donc ça encore, ça ouvre encore plus. La 6e, on arrive sur une nouvelle planète. Donc ça donne une autre dimension. Bien qu'il y ait des choses qui ont... n'ont pas très été appréciés, des personnages qui ont disparu et que ça a fait beaucoup de bruit par rapport aux fans. Et la 7e, là où il y a eu vraiment encore plus de bruit par rapport aux fans. Et la fin qui a été vue par des gens qui ont dit « Ah bah oui, c'est une belle fin ». D'autres qui ont dit « Ah bah on s'attendait à différent et on s'attendait à quelque chose de, oui, d'ordre de sacrifice ou quelque chose comme ça ». C'est vrai que il y a des choses qu'on s'attend, qui sont prévisibles, et d'autres qui sont complètement impromptues. Et puis, c'est la force des scénaristes, hein, des séries qui nous font rêver, qui nous font aimer. Mais bon, moi j'ai vu les 7 saisons et j'ai pas de truc où j'ai pris ma zapette et j'ai zappé l'épisode. Ça peut m'arriver sur d'autres choses, mais là j'avais vraiment envie de prendre tout et de comprendre, surtout parce que des fois il y a des choses, vous dites ah c'est pas important, et en fait un petit truc là ça apporte son importance à la dernière saison. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Dans chaque saison, vous avez un élément qui apporte énormément à la dernière saison et qui peut vous faire comprendre pas mal de choses et vous faire raisonner différemment et vous faire comprendre aussi pourquoi cette fin.
Je pense que de toute façon, on reparlera de cette série si on parle d'autres séries. Parce que...
Oui, ça a mis le pied à l'étrier.
Il y a certaines situations, notamment le bunker dans la saison 4 ou 5, dont on vous parlera prochainement avec la série Silo, probablement,
Oui,
parce que
Magnifique.
Certes, c'est sûrement pas inspiré l'un de l'autre, mais visuellement et en termes
non,
de
non, parce
ressenti,
que c'est un livre. C'est des romans Silo. Je sais pas si vous l'avez vu, Silo.
Non, je l'ai pas du tout.
Et franchement, c'est une très belle série de science-fiction. Et on attend la saison 2 avec impatience, là.
On attend la
saison
2.
Sur Apple TV, qui arrive bientôt, qui arrive très très bientôt.
Et en parlant d'inspiration pour cette série, moi, il y en a une que j'ai notée, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est pas de la science-fiction, mais j'ai vu beaucoup de Lost les disparus dans cette histoire.
Oui, tout à fait.
Dans le côté d'un peuple qui vient du ciel, qui atterrit sur un endroit apparemment inhabité, avec des autres, et encore cette histoire de bunker qui est prédominante dans Lost aussi. Mm-hmm. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'inspiration lostienne.
Ouais, c'est vrai,
plaisir.
T'as raison. Mais de manière, Lost, c'est une très, très grande série science-fiction qui a énormément ouvert de portes sur d'autres séries qu'il y a maintenant. Hein. On voit avec la Brea, on voit avec plein de choses où ils essayent d'amener ce côté-là. Et c'est vrai que Lost, ça a ouvert des portes qui étaient complètement fermées à l'époque. Et ça a permis des séries aussi incroyables que Les 100, que d'autres séries, comme on parlait Silo, c'est pareil. Hein. Y a beaucoup de choses comme ça qui sont prises. Et moi, j'aime beaucoup ce fait que les anciennes séries servent et ils font des clins d'œil à chaque fois à d'anciennes séries et ça fait un bien fou. Quoi.
Ça y a... De toute façon, c'est le monde du cinéma, il y a toujours des références à d'autres films. Je rappelle juste Lost, c'est 2004 à 2010 la diffusion, donc c'est effectivement bien avant The 100, et donc c'est eux la source.
Ah bah oui, non mais là, Lost, ça a été vraiment une des principales séries qui a ouvert des... Et puis les axes, le suspense, les intrigues qu'il y a dedans.
Faut oublier la saison 5, juste. Et à part la saison 5,
on
c'est
a un rageux
incroyable.
Dans le studio.
C'est pas rageux, non, honnêtement.
Bah, la saison 5,
très,
elle
très,
est
très grand fan de Lost. Hein. Je suis grand fan, mais.
C'est vrai
la
qu'on
5,
a été déçus par la clôture
de cette série,
mais on s'y attendait. Malheureusement, on s'y attendait. On savait qu'il y allait avoir quelque chose qui ne va pas nous plaire. Comme dans une série qui parle aussi avec un avion qui a disparu, machin, et Manifeste. Merci beaucoup.
Manifeste, c'est sympa.
Manifeste, c'est pareil. Il y a plein de trucs où tu te dis, je m'attends à quelque chose, et en fait, tu te dis, bah non, ils sont là-dedans. Alors, c'est vrai que c'est dommage, la saison 5, mais si vous voulez qu'on parle de Lost, on pourra en parler avec grand plaisir, puisque c'est une série qui a bercé beaucoup de choses et qui a permis énormément de choses. Donc voilà, je pense que
on aura l'occasion
d'en reparler.
On est tous
d'accord, on parlera de Lost, on parlera de Silo. Mais en tout cas, si vous pouvez voir Les 100, n'hésitez pas, parce que c'est une belle série d'ados, adultes.
Clairement. C'est un des seuls reproches que j'aurais eu, moi, c'est que le début est très teenage.
Bah, oui,
par la
mais
suite,
c'est fait
ils évoluent, ils deviennent un peu plus adultes.
Bah,
c'est
ils
un peu
grandissent
mieux.
Avec la série, donc. Mais c'est vrai que
ouais,
c'est très
teenage. Il y
avait
le côté de cette teenage, un peu Justin Bieber de quand on était jeune, où ils sont tous un peu beaux gosses avec leurs franges et puis nanana et histoire d'amour, tu vois. Bon.
Bah oui, mais
ça
bon,
va, ça passe. La preuve,
sur...
je l'ai regardé, je l'ai
ils
beaucoup
sont...
aimé.
Ils sont envoyés sur Terre parce que ils ont moins de 18 ans. Et que si après ils franchissent ce cadre de la majorité, ils peuvent être envoyés à la dérive. Donc il vaut mieux qu'ils soient envoyés sur Terre et qu'ils soient sauvés, entre parenthèses pour certains, que d'être envoyés à la dérive à 18 ans.
Mais je ne parle pas en termes de scénario, c'est plus dans la façon de représenter, dans les choix d'acteurs, des choix de coiffure, de représentation, où c'est, selon moi, c'était très teen.
Ouais, mais je pense qu'on capte vite le public cible, en fait.
Ouais, le but, c'est ça.
Ouais,
c'était teenager, jeune adulte. On le sait. Et au fur et à mesure, même si la série grandit, on garde ce public et on l'emmène après vers le public adulte. Mais je pense qu'il faut pas...
C'était pour mon seul reproche. Hein. C'est tout. Hein.
c'était prévu comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de séries qui étaient justement pour les ados, les teenagers et les jeunes adultes. Aux tenants, aux aboutissants. C'est vrai que on avait pas ce truc là à cette période là. Donc non, en tout cas, n'hésitez pas à voir les 100 et à vous faire votre propre avis. Bon, bah pour certains, on vous a spoilé, hein, désolé, mais la série, elle est quand même sortie. Elle s'est finie en 2020, donc il y a prescription maintenant, hein, c'est vrai.
Il y a beaucoup de saisons, beaucoup de choses à dire.
Mais on vous a pas tout dit. Donc voilà, on vous a parlé de quelques éléments, mais on vous a pas dit des choses qui se passent dans la saison 3 qui sont horribles et inadmissibles, des choses qui se passent dans la saison 5 qui sont... Qui sont pas top non plus, hein, je vois la tête de Yanis, et puis dans la saison 7 où il y en a beaucoup qui ont fait des levées de boucliers, donc bah rendez-vous par vous-même, dites-vous ah oui c'est vrai qu'à ce moment-là je comprends pourquoi elle a dit ça, ou je comprends pourquoi Yanis était très content pour l'espace. Donc voilà, faites-vous votre propre avis sur la série, n'hésitez pas à la regarder, en tout cas bah, c'est très intéressant et très vivant de voir évoluer ces personnages.
Dis-moi que t'étais pas en train de te taper mon mec pendant que moi je risquais ma vie pour venir jusqu'ici.
Enfreindre la loi pour t'empêcher de devenir chancelier a été une décision facile à prendre.
Tu es de fait condamné à mort.
On vit dans la peur des natifs depuis trop longtemps.
C'était Chaud Devant Série avec Les 100. Ben, n'hésitez pas à regarder la série. Alors, je vous l'ai dit, hein, plus disponible sur les plateformes en intégralité, mais vous pouvez la retrouver sur des sites VOD. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if